Canal Sud 92.2, bonjour. Que nous avons le grand honneur et le vrai bonheur d'accueillir des acteurs d'une pièce merveilleuse qui s'appelle L'échelle de soie blanche. Alors, nous avons la comédienne Sarah Mouton et son directeur artistique, Monsieur Mouton, qui viennent nous présenter donc L'échelle de soie blanche. C'est une pièce très très belle, poignante, bouleversante, qui m'a laissée dans un état second quand je l'ai vu au théâtre de Poche. Et donc, voilà, je vais vous donner le point de vue de Jacques-Olivier Badia, qui a écrit dans la revue Le Clou dans la planche ces quelques lignes à propos de L'échelle de soie blanche. Qu'on les appelle tziganes, gitans, manouches, sintis, bohémiens ou romanichel, les Roms restent l'objet de bien des fantasmes, le sujet d'une image brouillée par la méfiance et une bonne dose d'ignorance, seulement éclairée par l'aura de liberté qu'on leur prête et l'éclat d'une musique mise à toutes les sauces de la réinterprétation. Le cinéma, le théâtre s'en emparent sporadiquement, sans changer grand-chose à la méconnaissance qu'en a le gadjo. La compagnie Petite Coulisse Production a voulu y mettre son grain de sel. L'échelle de soie blanche donne la parole à trois générations de Romnia pour esquisser de ce peuple un portrait sensible et attachant. L'échelle de soie blanche est de ces spectacles qui compensent la pauvreté de leurs moyens par la sincérité et une abondante générosité. Le spectateur ne trouvera donc sur scène qu'une évocation de roulottes mal proportionnées, arborant le drapeau de la communauté rome, un chevalet pour porter des portraits sans visage, deux tabourets, une table pliante et quelques accessoires. Bien assez pour Sarah Mouton, qui, d'un foulard et un châle, fait une figure. D'un entrechat, une danse entière, laissant aux mots le soin de compléter la scène. Et ces mots portent. L'histoire que déroule la comédienne s'impose jusqu'à construire sa propre réalité. La sensibilité est là, la palette variée et plusieurs moments brillent d'un bel éclat. Échange d'insultes, hérissons de légendes, train de déportation. À quoi on ajoutera des choix musicaux heureux délivrés de ce swing manouche, de ces musiques de l'Est dont la prédominance cache la richesse de la musique tzigane. Alors, je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Je vous présente Madame Sarah Mouton, qui va vous raconter de belles et terribles histoires.
Je suis née de la première étoile, l'étoile des Roms. De génération en génération, je suis descendue, tout au long de l'échelle de soie blanche, pour arriver un jour sur cette terre, entre Anusha, ma mère, et Jovan, mon père. Ils m'ont appelée Zoé. Oh, dans notre communauté, on ne se soucie guère du nom de famille, et tout le monde a un surnom, le Romano Nav, le nom romani. Ainsi, enfin, j'ai connu Camoro, petit soleil, parce qu'il était toujours gai et souriant, et aussi Chonoro, petite lune, parce qu'il changeait souvent de poids, tantôt gros et tantôt maigre. J'avais une amie qu'on appelait Papignori, petite oie. Oh non, ne riez pas. Chez nous, c'est un compliment. Petite oie, parce qu'elle était très belle et très blanche de peau. Chez les Roms, il y a trois mondes. Le premier, c'est celui des contes romani. C'est le moment de la joie et de la paix. Le deuxième, celui des chansons, celles qui jaillissent de nos cœurs à chaque instant de notre vie. Et le dernier, c'est celui du quotidien, dans le monde matériel. Mais la réunion des trois nous apporte l'unité et l'harmonie. Nous croyons aux rêves, et chaque jour, prévatra, c'est-à-dire sur l'espace réservé à la vie commune, au milieu des roulottes ou des caravanes, les femmes se racontent leurs rêves, et les plus âgées leur donnent une signification. et souvent ce qu'elles annoncent se réalise. Et voici Ilonka, ma grand-mère maternelle. C'est par elle que commence mon histoire. Nous sommes sur la colline aux Sentinelles. C'est là que se réunissent depuis des années et des années, et peut-être des siècles, les gens de ma tribu. Nous l'appelons ainsi parce qu'en bordure de la Brupte, il y a 5 arbres, tous à même distance. Nous les voyons de loin et ils guident les nouveaux arrivants. Ce sont nos guetteurs de rêve. Quand j'ai déposé ma vie dans les mains de ton père et j'ai chanté toute la nuit, comme toi. Nous sommes ainsi, femme d'homme. Nous chantons nos peurs et nos peines pour les chasser. Tu sais, la vie à deux est longue et les caractères diffèrent. Mais peu à peu, mais l'harmonie, Sibricagna, va venir t'en parler. Sastipe, bonjour Ilonka. Seiya me dit que tu es un peu inquiète aujourd'hui. C'est pourtant un grand jour de fête. Oh, mais je te comprends. Nous toutes connaissons ce moment de doute. Et après tout, nous nous engageons pour la vie entière. Alors, laisse-moi te dire comment retrouver le sourire. C'est le rôle de la plus ancienne de la tribu. Dulko, viens écouter toi aussi. Viens, je vais vous donner le secret du bonheur. Bonheur qui fut le mien, jusqu'au jour où mon vieux Miloche s'en alla se coucher, pour toujours. Ah, pour que votre mariage soit heureux, Ilonka, tu demanderas aux parents des Dulko de te donner 2 vases en terre cuite, l'un rouge, l'autre bleu. Moi, je vous donne ce sac de graines. Elles seront le témoin de vos journées futures, marqué de l'empreinte des joies et des peines que vous vous serez données l'un à l'autre. Ainsi, toi, Dulko, tu es coléreux. Méfie-toi de la colère, car elle peut tuer l'amour. Si tu veux être un bon mari, tu dois protéger tout ce qui vit au dehors et dans ta roulotte. Ton cheval sera le premier fils de ton foyer, jusqu'au jour où Ilonka portera ta graine dans son ventre. Ton vase sera le rouge, car le rouge, c'est la force. Toi, Ilonka, tu auras le vase bleu, couleur de la tranquillité. À partir d'aujourd'hui, chaque jour vécu sera posé le soir dans votre vase. Il tiendra le secret de votre vie intérieure, et vous le regarderez ensemble. À chaque fois que 7 lunes se seront écoulées, vous connaîtrez alors les sentiments profonds de l'autre. Chaque graine a une signification différente. La fève, c'est le grand bonheur. La citrouille, la tranquillité. Le maïs, une contrariété. Oh. Le haricot blanc, une méchante chose. Le rouge, c'est la colère. Le potiron, c'est l'ennui. Et ces deux-là, ah, ces deux-là, c'est la tristesse et le désespoir. C'est sur ce même châle qu'ensemble vous ferez le compte de vos joies et de vos peines. Et le jour où la citrouille et la fève seront en majorité, alors vous aurez atteint le seuil de l'harmonie. Et la joie de vivre sera sur vous. Chez nous, les jeunes filles se mariaient très tôt, vers 14 ou 15 ans. Celles de la tribu de ma grand-mère se réunissaient, le soir venu, un peu à l'écart de Prévâtre. Et bien sûr, elles étaient rejointes par les jeunes garçons, avec leur instrument de musique. Les filles chantaient, les garçons jouaient. Ah, il faut dire que les garçons commençaient la musique très tôt, et qu'il n'était pas rare de voir un tout petit bout, sachant à peine marcher, traîner sa guitare ou son violon dans tout le camp. Donc, ces jeunes anges se regardent en coin pour voir qui convient à qui. Et parfois même, un couple s'éloigne. Oh, mais les lendemains, attention au scandale. Ma mère m'a raconté qu'elle a vu Irène qui a traîné sa fille par les cheveux dans tout le camp, en criant à l'adresse de Loli. « Ton fils a déshonoré ma fille. Je ne supporterai pas cette honte. Les fiançailles auront lieu aujourd'hui même. » « Quoi ? Mais c'est ta fille qui est une catin. C'est elle qui débauche un honnête fils de famille. » « Ah oui, 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 c'est la faute de ma fille. Oh, mais pour ce mensonge qui n'est poire te pousse au cœur. Et moi, je souhaite que ta fille mette au monde des enfants avec une queue en tire-bouchon. Pouah ! Ta bouche ne sait dire que des mauvaises choses. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu aboies au lieu de parler. Ah oui, ta fille est bien comme toi, hein. Ah, ça, elle a du culot. Mais c'est une vraie langue de vipère. Et ton fils ? Non, mais tu as vu ton fils ? Ah, il fait le malin, gling, gling, gling. Mais quand il joue du cembalo, on dirait un tuberculeux. Parce que tu crois que ta fille est jolie, peut-être ? Oh, mais tu verras. Oh oui, tu verras. Les feuilles vertes, ça sèche vite. Dans 2 ans, elle sera toute racornie. Et la dispute devenait une véritable scène de théâtre, chacune improvisant un duel de métaphores. Ah, mais le soir même, on célébrait les fiançailles avec une grande fête de réconciliation. Ah, la colère romagne. La colère romagne est comme le vent. Elle arrive, elle souffle, et puis elle s'en va. C'est en 1928 que Ilonka et Dulko commencèrent leur vie de couple. Oh, en ces années-là, la communauté était pauvre et tous les foyers ne possédaient pas de matériel de cuisine. Alors, les marmites circulaient dans tout le camp. Ah, la solidarité était de mise. Et il n'était pas rare qu'une mère de famille, un peu plus à l'aise que les autres, prélève une part de nourriture dans sa casserole et dise à l'un de ses enfants: porte ça à Lina. Ils ont toujours faim là-bas. Et c'est vrai. En période de disette, quand il n'y avait plus rien à manger, les hommes maraudaient la nuit pour amener des pommes de terre, du maïs, des concombres. Oh, mais ils ne prélevaient dans les champs que de quoi nourrir leur famille une fois par jour. C'était une question d'honneur. Ah, mais pour les fêtes, les femmes faisaient des gâteaux que l'on exposait aux fenêtres de la roulotte en signe d'abondance. Et à la nouvelle lune, les hommes mettaient quelques pièces dans un seau d'eau. Puis ils s'inclinaient face à elles pour que leur richesse augmente au même rythme que son croissant. Oh, cette coutume n'est plus pratiquée de nos jours. Un proverbe rome dit: Nan et chave, nan et bast. Pas d'enfant, pas de bonheur. C'est en 1930 que naquit le premier enfant de Ilonka. C'était Anosha, ma mère. Plus tard, il y aurait Lulia, Romanek, Milanko, Olina et Johannes. Nous étions des enfants heureux. Oh, il n'y avait pas que nos parents pour nous élever. Toute la communauté nous prenait en charge. Les femmes nous amenaient cueillir des baies, des fraises des bois, des champignons, des plantes médicinales qui seraient vendues pour acheter du tissu pour nos costumes de fête. Ah, je nous revois. Un beau jour de juin. Revenons de notre cueillette. Ma mère avait lavé les draps et les avait étendus sur l'herbe. Évidemment, tous les enfants se sont mis à sauter dessus. Et grand-mère Bora, la mère de mon père, s'est mise à crier.
Et l'onca, il serait temps de faire le café. Je ne l'ai pas encore bu. Et ces enfants, mais ces enfants ont faim. Fais-leur des crêpes.
Eh oui, c'était comme ça. On ne nous battait jamais. Les Roms ne battent pas leurs enfants.
Oh, sauf vraiment
en cas de très, très grosse bêtise. Mon père disait...
Et pourquoi je les battrais? Ils savent très bien sans ça que je suis plus fort qu'eux.
Et maman se mettait au fourneau pendant que grand-mère Bora nous lavait et nous coiffait. Oh, beaucoup de gens pensent que les enfants roms poussent comme des herbes sauvages. Mais ce n'est pas vrai. J'ai vu beaucoup de femmes frictionner leur bébé avec le lait maternel pour qu'ils grandissent bien et qu'ils deviennent forts. Et quand maman était de nouveau enceinte, on l'a incité à chanter pour que le bébé naisse joyeux, hein? Et qu'il soit un futur musicien. Et tout le monde était aimable avec elle. Même grand-mère Bora. Chez nous, la phrase de bienvenue dit « Nasal Bokali, tu n'as pas faim ?» Mon père, il dit que les romanichels, ils mangent des hérissons.
Oh, mais oui, c'est vrai. Mon grand-père, Adam Koué, le mari de Bora, adorait le hérisson. Moi, je n'en ai jamais mangé, mais ce doit être délicieux. Et puis, souvent... C'était la seule viande qu'ils pouvaient se procurer. Oh, mais peu de filles en mangeaient,
à cause de la légende du roi perdu. C'était un roi tzigane. Il était allé se promener dans une forêt et il s'était perdu. Rien à faire pour retrouver son chemin.
Et le voilà qui crie et qui se désespère.
Il se voit déjà mort de froid, de faim, ou dévoré par les bêtes féroces. Quand tout à coup, une petite voix se fait entendre. C'était celle d'un hérisson qui se reposait près d'un taillis. « Grand roi, si tu le veux, je te montre ta route, mais à une condition. »«
Laquelle, hérisson, laquelle? Je suis prêt à tout pour retrouver mon chemin. Tu auras autant d'or que tu le désires. »«
Oh, grand roi, mais je n'ai pas besoin d'or. Je veux juste la main de ta fille. »
Mais tu n'es pas sérieux, hérisson. Jamais, tu entends? Jamais tu n'auras la main de ma fille.
Alors, grand roi, jamais, jamais tu ne retrouveras ton chemin.
Le roi eut beau s'indigner. Le hérisson n'en voulut pas démordre. Et il fut bien obligé d'accepter le marché.
Et l'un guidant l'autre, ils arrivèrent au château.
La fille du roi hurla, tempêta, sanglota, qu'elle ne pouvait pas épouser un hérisson. Eh oui, mais le roi avait donné sa parole et la jeune fille dut s'exécuter.
Les noces furent célébrées le jour même.
Et le roi, respectant la coutume tzigane, offrit lui-même le pain et le sel aux jeunes époux. Les invités, une fois leur surprise passée, burent en riant et chantant à la santé des jeunes mariés.
Puis les violons ouvrirent le bal et chacun dansa à s'en briser les jambes.
Seule, la fille du roi sanglotait dans son coin.
Mais aux 12 coups de minuit, le hérisson disparut, laissant la place à un jeune homme beau comme un dieu. C'était le prince d'un pays voisin. Une fée lui avait jeté un sort.
Tu resteras hérisson, je sais, jusqu'au jour où une jeune fille acceptera de t'épouser. Ainsi fut fait. Et la fille du roi sécha ses larmes et dansa de joie. Et c'est pourquoi beaucoup de jeunes filles d'Igane refusent de manger du hérisson. Qui voudrait prendre le risque de dévorer son prince charmant? Et maintenant, au travail. Tous les tableaux que je peins représentent ma famille, la vie des miens, ce que je n'ai pas connu. C'est grâce à eux si j'existe. Il ne faut rien oublier. Ils allaient par la terre, comme vont les nuages. Ils se moquaient des vents, des pluies et des orages. Bora et Adamko, Ilonka et Dulko, Anusha, Lulia, Romanek, Milanko, Olina, Johannes et tous les autres. Et la guerre est arrivée. Je me souviens. C'était le 14 mars. Les cloches se sont mises à sonner et elles n'arrêtaient plus. Nous restions au campement. Nous étions inquiets. Et quand l'un de nous s'aventura dans le village, il fut accueilli par des sarcasmes. Très vite, les villes nous furent interdites, sous prétexte que nous avions des poux. On disait même que nous amenions le typhus. Et nous ne pouvions entrer dans les villages que de midi à 14 heures. Celui ou celle qui enfreignait cette loi avait le crâne rasé en forme de croix et on l'envoyait dans un camp de travail. Un soir de septembre, les gendarmes sont arrivés. Ils ont arrêté tous les hommes et ils leur ont mis des chaînes. Moi j'ai pleuré toute la nuit, malgré Bora qui me sermonnait. Mais ne pleure pas. Ils ont arrêté tous les Juifs. Et maintenant, c'est notre tour. Il fallait s'y attendre. Tu ne les aideras pas en pleurant. Et tu ne t'aideras pas non plus. Et tes enfants, hein? Qu'est-ce qu'ils vont imaginer, tes enfants? Tu ne dois pas leur communiquer ta peur. Le lendemain matin, nous sommes allés à la gare. Les hommes étaient déjà dans les wagons à bestiaux. Et les gendarmes nous ont empêchés d'approcher, en nous frappant à coups de crosse. J'ai appelé Dulko et je l'ai aperçu à la lucarne d'un wagon. Il m'a crié « Je vais bien, je suis avec mon père. Occupe-toi bien de maman, elle n'a plus que toi maintenant. Embrasse les enfants pour moi. Dis à Romane que je lui laisse ma guitare. » Le train s'est mis en marche. Je n'ai plus jamais revu Dulko. Un matin de novembre, les gendarmes sont revenus. Ils nous ont sorti des roulottes à coups de baïonnette. Les enfants pleuraient. Des femmes s'arrachaient les cheveux. Et la vieille Marianne leur a dit « Mais ça ne sert à rien de résister ou de gémir. Mettez plutôt quelques affaires dans un baluchon. » Puis, ils ont mis le feu à nos roulottes et ils ont tué nos chevaux. Ensuite, nous avons marché des jours et des jours dans le froid et la neige qui s'était mise à tomber. Comment avons-nous survécu à ces voyages? Je l'ignore. À la fin, on nous a fait monter dans des wagons comme ceux qui avaient amené Dulko. Et nous sommes arrivés à Auschwitz. L'homme ne peut rien contre les signes du destin. So Kampel, te Avel, Oda Ella. Ce qui doit venir sera. Quand nous sommes arrivés au camp, on nous a pris en photo, nous, les enfants. Je ne sais pas pourquoi. Je n'avais que 13 ans, mais je crois que ma mère savait ce qui nous attendait. Dis que tu as 16 ans. Tu entends? Dis que tu as 16 ans. Que tu es petite mais très forte et que tu travailles bien. Dis que tu as 16 ans. Dis que tu as 16 ans. Elle n'arrêtait pas de me répéter ça pendant que nous avancions dans le fil. J'ai fait ce qu'elle m'a dit. Et ça m'a sauvé la vie. On m'a mise dans la file de droite. Maman et mes frères et sœurs sont partis dans celle de gauche. Je les ai toujours devant mes yeux. Johannes, dans les bras de maman. Mélanco et Oline, accrochés à ses jupes. Et juste derrière, Lulia et Romanek, se tenant par la main. Et la voix de maman, chantant la berceuse de notre enfance. On m'a envoyé à Ravensbrück. On m'avait donné une petite pelle à manches très court. Et je me disais, mon Dieu, mais je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai jamais. Je ne sais pas où j'ai trouvé la force. Mais j'y suis arrivée. Et on m'a gardée. Oh, je ne vous parlerai pas de tous ces mois d'enfer, non. Je vous dirai juste qu'il me reste encore aujourd'hui l'odeur de fumée collée à mes narines. Et je vous parlerai de Jovan, mon petit coin de ciel, la lumière de mes aubes sales. Il était dans le camp des hommes, et tous les jours, comme moi, il travaillait à la carrière. Et il s'arrangeait toujours pour que mon tas de cailloux ne contienne pas de trop grosses pierres. Nous ne pouvions pas nous parler, non. Mais quand son regard croisait furtivement le mien, il m'envoyait toute sa force. Nous nous étions reconnus comme étant du même peuple, celui des enfants du vent. En 1945, ce sont les Russes qui nous ont délivrés. Ils nous serraient contre eux et nous embrassaient. Nous qui étions si sales, et couverte de tissus sans couleur et sans forme. Et je ne sais qui d'eux ou de nous pleurait le plus. Et Jovan est arrivé. Et pour la première fois, il m'a parlé. Jovan, mon doux Jovan, je ne veux pas te quitter. Mais je ne veux plus marcher sans fin. Je ne veux plus voir ces pancartes qui disent « Interdit aux Roms ». Aux manouches, aux gitans, je ne veux plus avoir peur. Peur des soldats, peur de la nuit et peur des rêves. Je ne veux plus qu'on tue mes chevaux et que l'on brûle ma roulotte. Je ne veux plus avoir peur des barbelés et des pigeons mariés. Pardonne-moi si je n'aime plus le voyage. Je voudrais juste un coin de terre avec des arbres en sentinelle qui veillerait sur mon sommeil. Jovan accepta. Il trouva une petite maison pour Anoucha. Oh, ce n'était qu'une baraque en bois, un peu à l'écart du village. Il n'y avait qu'une grande pièce et un débarras. Un fourneau, une table, deux chaises, et un matelas posé à même le sol. Mais il y avait l'eau courante. Et surtout, il y avait des arbres. J'ai souvent vu ma mère les entourer de ses bras. Je sais que c'est en eux qu'elle puisait des forces pour chasser ses peurs. Elle décorait sa maison avec de grosses roses qu'elle découpait dans du papier crépon et qu'elle épinglait au mur. Elle élevait quelques chèvres et cultivait un petit potager. Papa, lui, élevait des chevaux, mais il rêvait de pouvoir à nouveau jouer du violon. une fois par an, comme par le passé. Ils allaient sur la colline aux sentinelles. Oh, bien sûr, ils étaient moins nombreux. Mais comme autrefois, ils faisaient une grande fête qui durait 3 jours. Et c'était comme autrefois les embrassades et la joie de se retrouver, d'échanger des nouvelles. Et comme autrefois, au bout de 2 jours, c'était les disputes, les chamailleries. Ah, mais le soir, tout était oublié. Ils allumaient un grand feu. Et les hommes et les femmes chantaient et dansaient la simple joie d'être là, tous ensemble, vivants. Et papa empruntait le violon de Yanko et il jouait. Il jouait jusqu'à épuisement. Au dernier matin, des 4 coins de la colline s'éloignaient les roulottes. Et le vent apportait à ceux qui restaient encore les chants de tristesse du départ et le hennissement des chevaux. Moi, je vins au monde en 1949. Mes parents avaient fini par croire qu'ils avaient trop souffert dans leur corps pour donner la vie. Et je fus, je crois, leur plus grande joie. Ils n'eurent pas d'autres enfants. Puis vint le temps de l'école. Au début, je n'apprenais rien. Nous étions plusieurs enfants roms et on nous avait mis au fond de la classe. Et comme beaucoup d'entre nous ne parlaient que le romani et que la maîtresse n'en comprenait pas un traître mot, elle ne s'occupait pas de nous. Maman était furieuse. Elle eut le courage d'aller trouver le directeur. Que lui a-t-elle dit, mystère? Mais la semaine d'après, on nous changeait de classe. La nouvelle institutrice établit une sorte de jeu. Et nous étions si contents de lui apprendre que « bonjour » se dit « sastipe » et « merci, pachavitout ». En échange, elle nous apprenait des mots nouveaux. C'est grâce à elle que j'ai découvert le plaisir de la lecture et celui d'apprendre. Maman était très fière. Maintenant, tu es instruite. Tu t'en sortiras toujours si nous sommes de nouveau pourchassés. » Même après des années de paix, elle avait gardé cette peur en elle. Parfois, quand elle faisait la cuisine et qu'elle faisait tomber une épluchure, elle la ramassait. « Regarde, Zoé, regarde. C'est ça qui m'a sauvé la vie. » Puis elle se dirigeait vers une statuette de la Vierge, près d'une bougie toujours allumée, et elle priait. Papa, quant à lui, avait pu s'acheter un nouveau violon. Oh, d'occasion! Mais il faisait partie maintenant d'un orchestre de rue. Il me racontait la légende du premier violon Tzigane. Et quand il partit jouer, moi je rêvais au beau cavalier, celui qu'avait rencontré Orca, la jeune tzigane. Il était près d'une fontaine et donnait à boire à son cheval. Il portait de riches vêtements et son visage était si beau que Orca sentit son cœur battre à se briser. Et quand il la regarda longuement, elle se mit à trembler de tous ses membres. Puis il prit une pièce d'or et la lui lança. « Voilà pour toi, belle tzigane. » Le temps pour Orca de se baisser pour la ramasser et le beau cavalier avait disparu. Orca pleure, l'amour a touché son cœur. Et sans réfléchir, elle fait appel à Openg, celui que vous appelez le diable. Aide-moi à retrouver mon beau cavalier et à conquérir son cœur.
Openg lui propose un marché. En échange de l'amour de ton prince, tu devras me livrer ton père, ta mère et tes 4 frères.
Orca, le cœur fou, accepte le marché. Mais au moment de livrer sa famille, elle est prise de remords et adresse une prière à Dieu. Dieu transforme alors son père en violon.
ses quatre frères en sont les cordes, et sa mère l'archer. Et pendant que Hopin, dans un nuage noir, sentant le soufre, emporte Orca, une musique s'élève dans les airs, une musique pleine de rire et de larmes. Et c'est depuis ce jour que lorsqu'un zigane joue du violon, on entend rire et pleurer la famille de Orca. Maman bougeait peu du village. Ma vie était rythmée par les concerts de papa que j'accompagnais parfois en grandissant et par les fêtes sur la colline aux Sentinelles. C'est là que j'ai rencontré Yano, le seul amour de ma vie. C'était un musicien remarquable. Il jouait de la guitare, mais aussi de la viole, du cymbalum, de la contrebasse. Ah, j'étais pleine d'admiration pour lui. Et je pensais que jamais il ne me remarquerait. Élevée loin des routes, j'étais plus timide, plus sauvage, plus silencieuse que les autres filles. Pourtant, l'année de mes 17 ans, c'est moi qui l'amena à l'écart du grand feu. Souvent chez les Roms, quand on ne peut pas dire quelque chose à voix haute, on fait une chanson. Et la chanson est sacrée, intouchable. Ce soir-là, Yano chanta, pour moi seul. Nous n'avions besoin ni de mère, ni de curé. Nous étions liés par la promesse, échangés devant tous. Je suis partie vivre avec lui, dans sa caravane. Le temps de la modernité était arrivé. Avec son groupe, nous parcourions l'Europe. Oh, ils avaient beaucoup de succès. Mais, au fil des ans, j'ai senti un silence s'installer entre nous. Oh, nous nous aimions toujours, profondément. Mais il souffrait d'un manque que je ne pouvais combler. Nanette Chave. Nanébacht se révélait plus vrai que jamais. Pas d'enfant, pas de bonheur. Je l'ai laissé partir. Je voulais qu'il soit heureux. Je suis retournée vivre dans la petite maison où mes parents déclinaient doucement. C'est ma mère qui est partie la première. Oh, elle n'était pas vieille. Elle n'avait que 51 ans. Elle n'était pas malade, non, simplement fatiguée. Ce qu'elle avait vécu pesait trop lourd sur ses épaules. Elle était le soleil de papa, son horizon, sa respiration. Il a pris son violon et il a chanté une dernière fois pour elle. Puis, il n'a plus parlé. Quelques semaines après, il l'a rejointe sous le grand tilleul. Les Roms croient que celui qui est parti peut se transformer en tout ce qu'il veut. Mais s'il a été un être juste et digne, il reviendra sous sa propre apparence pour faire ses adieux. C'est pourquoi on répand des cendres sur le sol de la roulotte. Comme ça, on sait que le disparu est revenu, parce qu'il a laissé des empreintes de chats, de papillons, d'oiseaux, ou d'hommes, tout simplement. Je fis ce que mon père avait fait pour ma mère. J'ai répandu des cendres sur le sol de la petite maison. Papa, lui, m'avait affirmé que les pas de maman étaient bien là, au petit matin. Moi, j'ai posé mes mains sur la cendre. je ne saurai jamais si celles de mon père se sont posées au même endroit pour une dernière étreinte. Le lendemain matin, j'ai allumé des rameaux de béodorante et je les ai passés dans toute la maison. C'est comme ça qu'on accompagne le voyage de ceux qui s'en vont rejoindre l'étoile. La première étoile. Cette année-là, sur la colline aux sentinelles, les chants ont vibré avec plus de force que jamais. Ils étaient tous venus. Et on ne savait plus où ranger les caravanes. Même Yano était là, avec sa nouvelle femme et ses 5 enfants. Je crois qu'il n'y eut jamais plus belle fête que celle en l'honneur de Jovan et Anusha. Et maintenant, qu'allais-je faire de ma vie? Il ne me restait rien. Et je ne savais où amener mes pas. Grand-mère Bora disait toujours, « Un arbre qui n'a pas de fruits n'est bon que pour le feu. » Oui, oui, la femme Rome doit donner la vie. Et je ne le pourrai jamais. Mon existence n'avait-elle donc pas de sens? C'est une nuit de pleine lune que j'ai décidé de mon destin. Il m'est apparu comme une évidence que je pourrais moi aussi donner la vie. Oh, pas avec mon ventre, non. Mais avec ma voix, avec mes mains et avec ma mémoire. J'avais découvert la peinture avec Yano pendant ses tournées. L'art naïf. Je peindrai désormais la vie des miens. Je raconterai leur histoire. Je dirai au monde, voilà ce que nous étions. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce que je suis désormais. La fileuse d'histoire. La tisseuse de souvenirs. La brodeuse de mémoire. Pour garder l'âme des miens, je prendrai la roulotte et les chevaux que j'aime tant. Et j'irai par les routes, à la rencontre des autres. Je leur dirai, regardez-nous. Regardez-nous avec le cœur. Yilo, le cœur. Oui, oui, nous venons de loin. Loin dans le temps, loin dans l'espace. Nous sommes des oiseaux migrateurs qui se reposent avant de prendre leur envol. Nous aimons la vie, les enfants, le ciel, le vent, la liberté. Oh, nous ne possédons rien. Rien que la chaleur de la famille, rassemblée dans le camp et dans le monde entier. Il faut de tout pour faire un monde harmonieux. Des sédentaires et des nomades. Votre Dieu et le nôtre, son frère. Et si vous voulez, nous danserons ensemble sous la musique du vent. Zigan ou Romanichel, Manouche ou Gitan. Le mot Rom dans la langue romanie veut dire homme, tout simplement.